Bienvenue dans Langue de Prune, votre émission sur la langue et la société. Reportages, débats, interviews et vos chroniques sympathiques et éclectiques. D'ici et d'ailleurs, à qui la faute ? L'étymologie en folie. À Langue de Prune, on n'a pas la langue dans nos poches. Tous les derniers mardis du mois, de midi à 13h.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Langue de Prune, l'émission qui vous parle des langues sous toutes les coutures, leur histoire, leur évolution en passant par leur influence. Ce mois-ci, c'est moi, Guillaume, qui suis en charge de vous guider dans notre émission. Je suis accompagné bien évidemment de notre équipe habituelle composée de Axel.
Bonjour.
Azilise.
Bonjour.
Et Louis.
Yo.
Le thème choisi pour ce beau mois de juin est l'orthographe. Nous allons parler de la réforme de l'orthographe, de l'histoire de la dictée, suivie d'une petite surprise, et enfin de la conjugaison. Bien évidemment, étymologie en folie, d'ici et d'ailleurs et à qui la faute, nos chroniques habituelles sont présentes. Je vais maintenant vous laisser avec Louis qui va vous parler de la réforme de l'orthographe.
Merci beaucoup Guillaume. Alors, pour pouvoir parler d'orthographe, il faut établir des règles qui soient reconnues par tous et toutes et connues par le plus grand nombre. Nous l'avons dit dans notre première émission, la première tentative au niveau de l'État d'établir ces règles de manière simple, c'est en 1634, avec la création de l'Académie française, dont la mission était, je cite, « de donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ». Cela passait entre autres par la création d'un dictionnaire. Mais bon, c'est bien beau tout ça, mais heureusement les règles d'orthographe ont un peu changé depuis le XVIIe siècle. Vous imaginez encore avoir comme seule borne orthographe de paiement P-A-Y-E pour la partie paye et que P-A-I-E soit une erreur, exclusivement une erreur. Eh bien oui, l'orthographe évolue avec notre langue, même pour les mots qui existaient déjà il y a plusieurs siècles. Mais comment garder trace de ces évolutions? Eh bien on fait des réformes. Bon, je sais, le réformisme, a priori, ça fait un peu peur comme mot, comme ça, mais promis, c'est pour notre bien à tous. Aujourd'hui, c'est le Conseil supérieur de la langue française qui décide des changements sur l'orthographe du français. Et l'Académie française n'a plus aucun rôle à ce sujet. Vous me demandez mon avis, fort heureusement, hein, car aucun académicien n'a de formation de linguiste, ce qui veut dire qu'il et elle n'ont aucune compétence pour juger de l'évolution du français. Donc ce conseil, il a été établi en 1989 par Michel Rocard, c'était le Premier ministre à l'époque. Bon, il y a mis quelques membres de l'Académie française quand même pour faire bonne forme, question de dire. Mais d'abord et surtout, on y trouve de nombreux linguistes et éditeurs de dictionnaires reconnus. Sa création a été faite dans un but, réviser l'orthographe du français en consultant l'ensemble des acteurs principaux de la francophonie. À l'époque, on considérait surtout que ces acteurs-là, c'était la Belgique et le Québec. Et cette consultation, alors, elle mena à la réforme de l'orthographe de 1990. Le fameux spectre de l'orthographe française, bel et bien en vigueur, mais que de nombreux acteurs décrient encore aujourd'hui. Sans surprise, l'Académie française ne reconnaît pas cette réforme aujourd'hui, ou très partiellement, ce qui est assez drôle car c'est aussi l'Académie qui avait donné son aval à l'époque. Elle était entièrement pour. Encore plus drôle, enfin en tout cas moi je trouve ça assez cocasse, quand l'Académie a récusé cette réforme en 2016 après consultation du gouvernement, l'argument qu'elle a invoqué c'était que cette réforme n'était plus en phase avec l'usage de la langue aujourd'hui. Oui, cette même Académie qui n'a de cesse de faire des rappels à la langue, parce que même si dans l'usage on utilise certaines expressions orthographes, bah, c'est pas du bon français. Typiquement, la fameuse guéguerre de s'il faut dire le ou la Covid, hein, c'est typiquement là-dedans. Bon, bref, c'était le traditionnel moment de « je tape sur l'Académie française », mais étudions un peu plus en détail cette fameuse réforme de 1990. Déjà, premier point, cette révision de l'orthographe ne se substitue pas aux usages précédents. C'est-à-dire qu'à la fois l'ancienne et la nouvelle orthographe sont valides. C'est logique, ça évite d'avoir à réenseigner à tout le monde l'orthographe, et surtout ça évite de froisser qui que ce soit, surtout pour l'ampleur relativement limitée des changements opérés. En effet, le but recherché était juste de simplifier l'écriture de française. L'écriture du français. Réduire quelques exceptions difficiles à manier, et aussi rendre l'orthographe logique avec la phonétique dans la mesure du possible. On peut résumer cette réforme, sans qu'elle s'y limite toutefois, à un nombre limité de mesures. Je vais vous présenter les 5 plus marquantes, en tout cas à mon avis. Première mesure, les nombres composés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la règle qu'on avait apprise à l'école, mais avant on mettait un trait d'union seulement entre les dizaines et les unités, sauf s'il y avait un « et » au milieu, comme 51 par exemple. Là, il n'y a pas de trait d'union. C'était un peu particulier à retenir, moi en tout cas je ne m'en souvenais jamais. Eh bien au moins c'est réglé, avec la réforme, on met des tirets entre tous les termes du nombre composé. Ça a le mérite d'être simple, là on ne se prend pas la tête. Deuxième mesure, les mots composés. Pour prendre un exemple au pluriel, à la base, quand on dit « des après-midi », on ne met pas de « s » à « midi ». Eh bien avec cette réforme, on peut pour tous les mots composés. Cette mesure comprend aussi la disparition des traits d'union sur des mots comme « entre-temps »,« week-end », etc. Ça, pour le coup, c'est un usage qui est déjà bien en place. Hein. Je connais en tout cas personnellement personne qui met un petit tiret à week-end. Enfin, ah. Peut-être que vous le faites. Ah bah, Agilis le fait, Axel le fait aussi. Et ben,
perso, non, moi c'est en un seul mot.
Voilà, c'est quand même un usage qui est bien implanté aujourd'hui quand même dans l'écriture. Troisième mesure, les mots empruntés. Par exemple, revolver, sandwich, ce sont des mots qui sont empruntés à une autre langue. Bon là c'est facile, c'est l'anglais. Il fallait respecter pour ces mots l'orthographe dans la dite langue dans laquelle ce mot a été emprunté. Avec la réforme, il est autorisé de les orthographier à la française, c'est-à-dire de mettre un « e » accent aigu à « revolver » ou un « s » à « des sandwich », là où au pluriel d'anglais ça ne se passe pas comme ça en tout cas. Quatrième mesure, l'accent grave. Là, il est juste question de faire coller l'écriture à la prononciation. Donc « événement », vous avez le droit de mettre un accent grave sur le deuxième « e ». Car oui, à la base, événement, c'est censé écrire avec deux accents aigus. Mais bon, peu importe, hein, aujourd'hui, vous avez le droit aux deux orthographes, hein, pas besoin de se prendre la tête. Cinquième mesure, c'est la dernière que je vais vous présenter, on ne va pas toutes les faire, l'accent circonflexe. Alors celui-là, il en a fait hurler plus d'un. On a crié à la disparition de l'accent circonflexe. Horreur, on dénature le français. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si on demandait, si ça devait arriver maintenant, on dirait que c'est encore un coup des wokistes. Mais bon. Vous vous en doutez, c'était entièrement faux. L'accent circonflexe reste obligatoire sur les A, E et O et facultatif sur les I et les U, sauf quand il y a un homonyme. Par exemple, boîte, bûche et coup, exit le circonflexe, pas besoin. Par contre, mûr dans le sens prêt à être mangé et sûr dans le sens d'être sûr de soi, conserve leur accent circonflexe pour les différencier du mûr dans la structure ou sur, dessus quelque chose. On le voit bien donc, ces mesures ne visent qu'à rendre l'écriture du français plus simple et plus logique. Toutefois, lorsqu'il a été annoncé à la rentrée 2016, 26 ans plus tard quand même, que cette réforme serait présente dans les manuels scolaires, il y a eu une levée de boucliers. On prétendait que, encore une fois, ça dénaturait le français, que ça le rendait plus difficile à apprendre, pire encore, que cela excluait les plus défavorisés en changeant des règles immuables. Or, c'est tout l'inverse. Et on ne sera pas surpris que ce sont des éléments conservateurs qui ont avancé ces arguments. Dernier petit coucou à l'Académie française. Car en effet, les linguistes le disent, ce qui exclut dans l'orthographe et le français en général, c'est de refuser de le modifier et de prendre en compte les changements organiques de la langue. Cette notion de « bon français », c'est ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser un terme bien anglais, du « gatekeeping », c'est-à-dire d'avoir un statut supérieur car on manie des règles et usages compliqués pour plus grand nombre. En déviant un petit peu, mais pas trop, de la réforme de l'orthographe, un autre excellent exemple des différentes approches du français et de son inclusivité ou non, ce sont les dictionnaires. En effet, il y a de nombreux dictionnaires différents, on le sait. Parmi ces dicos, deux d'entre eux se démarquent particulièrement, vous les connaissez, c'est le Petit Robert et le Larousse. Mais on peut se demander, y a-t-il vraiment un intérêt à avoir plusieurs dictionnaires? Ne sont-ce pas là juste des marques concurrentes qui vendent in fine le même produit? Eh bien, pas vraiment. Il y a une différence majeure entre deux dictionnaires. Entre ces deux dictionnaires, en tout cas, le Petit Robert et le Larousse. Vous avez sûrement entendu parler au moins une fois de la grogne qui peut s'exprimer chaque fois que de nouveaux mots sont ajoutés au dictionnaire. Eh bien, plus souvent, les plaintes se font autour du Petit Robert. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi que le Petit Robert? Il se trouve que le Petit Robert s'applique à respecter l'usage, c'est-à-dire à insérer les nouveaux mots qu'on utilise au quotidien, peu importe que ce soit des néologismes ou des barbarismes, comme on aime bien le dire parfois, et donc les insérer dans son gros dico. Et ça, ça fait pas bon français. Pour prendre quelques exemples de mots qui ont pu faire sursauter quelques personnes, le petit Robert avait inséré dans son dictionnaire il y a un ou deux ans « intersectionnalité », « transidentité », VPN ou le pronom, alors là vous en avez sûrement entendu parler aussi parce que ça a fait hurler YEL, I-E-L. A l'inverse, le Larousse repose sur une perception classique du français et ne va intégrer des mots seulement s'ils ont été validés par des instituts prestigieux. On a donc là deux visions du français, de son vocabulaire et de son orthographe qui s'opposent, d'où l'existence de dictionnaires différents.
Eh bien, merci beaucoup Louis pour tout ce savoir. Mais bon, maintenant, on va aller s'écouter une petite chanson de Pierre Perret sur un sujet que vous avez peut-être déjà entendu parler, je sais pas trop. La réforme de l'orthographe.
Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel, touche pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe mue pourtant éviter des baffes. Quand je tombais dans le panneau de charrettes et chariots, le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français, et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquées. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes quand du tréfond de ma détresse j'oubliais toujours laisse. Croque-monsieur et tire-bouchon n'ont plus besoin d'un trait d'union. Croque-madame et tape-cul n'en auront plus non plus. Contre maîtresse et contre foutre, eux-mêmes ne pourront passer outre. Entre cuisses et entre chats, n'ont pas non plus le choix. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. C'est les cuisseaux et les levrots qui me rendent des marteaux. Faudra aussi laisser quimper dans nos chères onomatopées ce trait unissant froufrou, yo-yo, ping-pong, trou-trou. On pourra souder nos blue jeans, nos ossobucos, nos pipelines. Vadémécum ex voto feront partie du lot. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité les baffes. Mettre un T au bout de la pas, que n'avais-je fait là? Et quand malgré nos vieux réflexes, on posera plus nos circonflexes sur maîtresse et enchaînée, on fera un drôle de nez. Mais les générations prochaines, qui mettront plus d'accent à chaîne, jugeront que leurs aînés les ont longtemps entraînés. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes depuis qu'un L vient d'être ôté à imbécilité.
Vous êtes sur Prune et vous écoutez Langue de Prune. Il est maintenant temps de passer à notre première chronique, À qui la faute ?
À qui la faute ?
Du coup, le sujet que j'ai choisi de parler pour cette chronique est une expression où je suis sûr que vous l'avez tous déjà entendu. Enfin bon, bref, du coup, voire même utilisé un peu trop souvent, du coup. Enfin bon, je crois que vous avez compris, je vais parler de l'expression « du coup ». Non ? Du coup, bon alors, l'expression « du coup » s'emploie comme un synonyme un peu familier de « par conséquent » aujourd'hui. Mais au départ, l'expression « du coup » n'en était pas une, en fait. C'était seulement la juxtaposition des deux mots « du » et « coup ». Mais à force d'être employés ensemble, ils ont pris un sens à part. Et ce phénomène, connu sous le nom de la grammaticalisation, a forgé d'autres mots dans les mêmes conditions, par exemple « bientôt »,« partout »,« beaucoup », et dont le sens, en fait, s'est éloigné du sens de leur partie. Mais l'expression « du coup » n'a pas reçu les mêmes honneurs que les autres mots issus de ce phénomène. Elle est critiquée par l'Académie française, surprise, non, et souvent mentionnée dans la liste des tournures à ne pas utiliser. Cette critique s'amplifie encore plus quand « du coup » est employé à l'oral comme marqueur de discours, dépourvu de sens dans une phrase. On a par exemple « il a quel âge, du coup ?» ou alors « du coup, je vais partir demain » ou « assieds-toi ici, du coup ». Mais aussi, à l'origine, l'expression n'est pas non plus incorrecte. Enfin, du moins, si on l'utilise au sens propre. Par exemple, un poing le frappa et il tomba assommé du coup. Bah ok, littéralement, il est sommé à cause du coup. Mais on peut le retrouver aussi pour exprimer la conséquence. Par exemple, son moteur a explosé et du coup, sa voiture a pris feu. Ça marche aussi. Mais en dehors de ces deux sens, du coup est incorrect et son emploi relève de l'abus de langage. Du coup, on ne peut pas en faire un synonyme de donc, de ce fait, par conséquence, etc. Et voilà. Maintenant, on sait que nous devons éviter de l'utiliser. Du coup, après, ça peut faire un bon jeu de mots à boire si vous écoutez un live ou du coup, ou alors si vous écoutez un ami parler, du coup, et à voir à quel point du coup est utilisé sans excès. Enfin bon, voilà quoi. Maintenant, vous voyez un petit peu du coup.
Langue de prune.
Nous allons maintenant enchaîner avec Azilis qui va nous présenter et nous faire la petite histoire de la dictée.
Je suis un peu déstabilisée parce que je me suis sentie visée sur le du coup. Du coup, je vais essayer de ne pas l'utiliser, mais je ne vais pas y arriver. Mais tant pis. Donc, quand on pense à l'orthographe, tout de suite, il y a la dictée qui nous vient en tête. Pour beaucoup, c'est des mauvais souvenirs. Et pour quasiment tout le monde, c'est des souvenirs juste chiants. Là, on va essayer de voir comment la dictée est devenue l'exercice phare de l'école française. Pourquoi est-ce que la dictée déchaîne autant les passions? Et à quoi ça ressemble une dictée aujourd'hui?
Quelle belle cueillette nous fîmes!
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons! Moutons! Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons!
C'est super, virgule. Johnny a dit à Adeline. Johnny a dit à Adeline, sinon ça fait Adelin, à que c'est chouette.
Au 19e siècle, s'est développée l'éducation pour tous et toutes, pour le peuple, notamment au travers des lois Ferry en 1881 et 1882. Donc l'enseignement de l'orthographe a été plus accessible. Et il a tout de suite eu une grande importance. Le certificat d'études, qui du coup sanctionnait la fin de l'école primaire, a été créé à cette époque. Et l'orthographe était hyper importante, parce qu'au-delà de 5 fautes, c'était éliminatoire. Donc il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient leur certificat. En 1900, c'était 25 à 30%. Dans les années 80, avec le développement de la linguistique, de la didactique du français, on a commencé à remettre en question la dictée, car ça commençait à être vu comme un exercice trop passif, trop centré autour de l'erreur et qui ne permettait pas vraiment de structurer le système orthographique. Et du coup, la dictée est devenue secondaire. L'orthographe a plutôt été vu comme un moyen de nourrir les activités de lecture et d'écriture qui sont devenues centrales. Et récemment, il y a eu un retour en force de la dictée. Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre en 2015, a préconisé la dictée quotidienne. Malheureusement pour elle, elle n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus, parce que le ministère peut imposer ce que les profs doivent apprendre aux élèves, mais pas comment ils le font. Ça n'a pas non plus dérangé Blanquer, puisqu'il a fait la même chose à son tour quand il est devenu ministre.
La dictée quotidienne, c'est une mesure qui avait été promise par ma prédécesseure, je l'accomplirai. La dictée quotidienne doit devenir une réalité dans nos écoles primaires.
Bon, bah pareil, en fait, ça dépend pas de toi, Jean-Michel, mais il a quand même modifié les programmes et il a mis qu'il devait y avoir des séances spécifiques d'études de la langue, donc une séance que sur la grammaire, une séance que sur le vocabulaire, une séance que sur l'orthographe. On voit que la dictée, c'est un grand objet de débat politique et les politiciens et politiciennes s'y intéressent pas vraiment comme un moyen d'améliorer l'apprentissage des élèves, mais plus parce que c'est un symbole. Donc leurs motivations pour la ramener à l'école sont pas pédagogiques. D'ailleurs, quand on leur demande, ils ont souvent des difficultés à expliquer l'utilité de la dictée. On va le voir avec une explication de Najat Vallaud-Belkacem.
La dictée, c'est un super bon exercice pour se concentrer, moi, je trouve. C'est que pendant tout le temps de la dictée, on n'entend pas un bruit dans la classe. Les élèves réfléchissent à ce qu'ils écrivent. Ils se repassent les règles qu'ils ont apprises. Et donc, c'est un superbe exercice de concentration. Et puis, par ailleurs, c'est quand même très utile de savoir écrire sans faute, n'est-ce pas ?
C'est un peu le monde des bisounours. Je ne suis pas sûre que tous les élèves se repassent les règles d'orthographe quand ils relisent. Mais bon, c'est logique parce que les ministres n'ont pas spécialement de compétences pour enseigner l'orthographe et ne sont d'ailleurs pas non plus incollables en orthographe. On l'a vu quand Blanquer s'est fait ridiculiser dans l'émission Au tableau où il devait faire un exercice de conjugaison.
Disa ou elle disa, c'est parfois les enfants font cette faute. Et courir très vite. Je cours. Je courus très vite. Il ou elle coura
très vite. Alors, vous avez fait deux fautes.
J'ai fait deux fautes. Alors, lesquelles?
Alors, je courus C'est, il y a un S à la fin.
D'accord, c'est vrai.
Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT.
Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bien sûr, évidemment.
Oui, oui, évidemment. J'en pense à très cool de se moquer des gens qui font des erreurs de conjugaison. Mais je pense que là, on a le droit. Quand même, il leur donne la leçon au début. Donc les réelles motivations de vouloir faire revenir la dictée, c'est plus des motivations idéologiques, politiques. Déjà, c'est quelque chose d'hyper racoleur, parce que tout le monde a connu la dictée, en a fait. Donc ça nous paraît normal que les nouvelles générations aussi, qu'elles en bavent comme nous. C'est un thème aussi très conservateur. Ça plaît beaucoup aux gens qui disent que c'était mieux avant, que maintenant, les enfants ne savent plus écrire. Ces gens-là, ils s'appuient sur la baisse du niveau d'orthographe. Il y a une étude qui a comparé la réussite à une même dictée en 87 et en 2015 et qui a mesuré une baisse du niveau. Donc il y a vraiment une baisse, mais on peut quand même nuancer un peu l'étude parce qu'on ne connaît pas le détail du public en 87. Donc on ne sait pas si toutes les catégories sociales étaient représentées, par exemple. Et puis c'est logique en fait que le niveau ait baissé parce qu'on consacre moins de temps à l'orthographe maintenant à l'école. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on voit de nouvelles matières, etc. Si la dictée plaît aussi beaucoup, c'est parce que c'est un exercice qui promeut des valeurs traditionnelles, un enseignement traditionnel, le silence, la passivité, l'obéissance. C'est ce que disait Najat Vallaud-Belkacem avec son « on entend les mouches voler », etc. C'est aussi, si c'est politique la dictée, c'est aussi parce que c'est un outil de tri. C'était donc déjà le cas avec le certificat d'études. Maintenant, c'est plus aussi strict, mais le respect des règles d'orthographe, ça a toujours une influence dans la notation de toutes les matières, que ce soit conscient, le prof enlève des points pour ça, ou inconscient, en fait, ça joue forcément dans la représentation qu'on a de la copie. Et ce tri, il est social, parce que la réussite en orthographe, elle est souvent liée au milieu social, au capital culturel de la famille, qui a plus ou moins de livres à la maison, à la manière dont les parents parlent, qui est une manière plus ou moins proche de la langue de l'école, à la possibilité des parents ou non d'aider les enfants dans leurs devoirs. Donc vous l'aurez compris, la dictée est de droite. Et cette dictée, elle est toujours présente aujourd'hui à l'école, en grande partie par habitude, et puis aussi parce que donc du coup, le ministère martèle qu'il faut l'utiliser. Mais est-ce que la dictée d'aujourd'hui, c'est la même que celle d'hier, celle qu'on a connue ?
Asseyez-vous et silence dans la classe !
Quand le corps crie famine et que les leitmotivs de la faim surgissent continuement, ce n'est la lecture ni de Racine, ni de La Fontaine, ni de Chateaubriand qui peut apaiser une poche stomacale rendue exiguë par le jeûne et l'abstinence.
Mais il est venu parce qu'il a eu l'idée de venir.
Il alla enfin à la pêche,
à la ligne,
pour s'en laisser tant crocheter.
Point était tant crocheter.
Mais,
ouvrez la parenthèse, quoi que c'est son problème, fermez la parenthèse.
Point final. Relisez.
Ça, c'était Pierre Péchard, je crois qu'il s'appelle. C'est un sketch, c'est pas une vraie dictée. Et cette dictée traditionnelle, comme on l'a entendu avec Bernard Pivot, elle existe toujours. Mais on commence quand même à remettre en question son utilité. L'Académie française lui donne toujours plein de vertus, qu'elle permettrait d'analyser grammaticalement des phrases, de comprendre la ponctuation, la syntaxe, bon, faut peut-être pas abuser. Actuellement, on la voit plutôt comme un moyen d'automatiser les compétences en orthographe, pour que les élèves aient de l'espace disponible dans leur cerveau quand ils sont en train d'écrire. Après, ça n'a toujours pas été prouvé que la dictée, ça permet vraiment de s'améliorer en orthographe. Ce qui change maintenant, c'est qu'on essaie d'adapter la difficulté, de la diminuer. Il y a différentes longueurs de dictées selon le niveau des élèves, des dictées à trous, des dictées à choix multiples. Il y a aussi la dictée caviardée, où les élèves noircissent les mots qu'ils pensent pouvoir écrire, et donc gardent le modèle, et les seuls mots qu'ils doivent écrire, c'est ceux qu'ils ont noircis. Il y a aussi actuellement une déconstruction de la notion de faute d'orthographe. On utilise de moins en moins le terme, parce que faute, ça a une dimension morale, on a l'impression que c'est hyper mal. On parle plutôt d'erreur, et on essaie d'analyser les erreurs. Ce qui est reproché aussi à la dictée, c'est qu'elle est négative. On enlève des points en fonction des fautes. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a eu des profs qui mettaient des moins 17, par exemple. Maintenant, ça se développe un peu les barèmes ou les grilles d'évaluation qui vont plutôt mettre, par exemple, 4 points si les accords des groupes nominaux ont été plus ou moins bien faits. Et l'autre problème de la dictée, c'est qu'elle évalue en fait à 10 où l'élève en est rendu et souvent, elle ne permet pas d'apprendre. Pour qu'une dictée permette d'apprendre, il y a de nouvelles formes de dictées, comme la dictée préparée, où avant de faire la dictée, le prof discute avec les élèves des mots compliqués, pourquoi là on met un T, pourquoi là on met un S. Il y a la dictée négociée aussi, où les élèves, après avoir fait la dictée, comparent en groupe leur texte et essaient de justifier pourquoi ils ont écrit un mot comme ci ou comme ça.
Moi, je dis qu'il y a un T, puisqu'il y en a plusieurs qui nagent de petits poissons.
Mais on se demande rarement pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on dicte un texte, le même à tout le monde, qui n'a généralement pas de rapport avec la vie des élèves et qui reste comme ça à pourrir dans leur cahier, alors que les enfants ont plein d'occasions d'écrire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en créer artificiellement ? Alors maintenant que je vous ai dit à quel point la dictée c'est nul, ça sert à rejeter, dévaloriser, emmerder les élèves, Guillaume va vous en faire une.
Attention, dictée !
Allez hop, de retour au primaire lors des cours de français. Sortez une feuille et un crayon. J'ai décidé d'être un peu méchant, mais vraiment un tout petit peu, et j'ai pioché parmi les dictées compliquées. Ok, voire même peut-être la plus compliquée. Je vous ai donc pris un extrait de la dictée de Mérimée. Et bon, je suis plutôt gentil en fait, quand même, non ? Hein ? Ok, d'accord. Alors je vais vous dire simplement un petit paragraphe, la première fois, comme on fait dans les vraies dictées, et après on ira tout doucement. Vous êtes prêts ?
Oui.
Ok. Quels que soient et quelques exigus qu'aient pu paraître à côté de la somme due, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le merguier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusillés jumeaux et mal bâtis et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps liégeonnaire.
On a le droit d'utiliser la nouvelle orthographe.
Bah écoute, on va voir si c'est ça lors des corrections. Donc vous êtes prêts ?
Ouais,
au pire, écrivez que les mots compliqués qu'on ne connaît pas trop. Bon, c'est à peu près tout, en fait. Donc, Allez, c'est parti. Quel que soit, virgule. Quel que soit. Est-ce que j'ai un peu... Quels que soit, virgule. Et quelques exigus. Qu'aient pu paraître, virgule. À côté de la somme due, faut-il que je répète ? Bon, c'est concentré.
C'est bon.
Quel que soit et quelques exigus qui aient pu paraître à côté de la somme due, virgule, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière, on fait un petit accent, la petite douairière, et le merguier.
Le fameux merguier.
Marguier. Avec mon petit accent, je me suis perdu. Marguier.
C'est pas la même chose.
Donc, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguier, virgule, il était infâme.
Je suis bien d'accord.
Il était, exactement, mon Dieu. Il était infâme d'en vouloir pour cela, à ses fusillés jumeaux. Fusillés jumeaux et mal bâtis.
Pas très bien charpenté ces fusillés.
Oh non. Et mal bâtis. Virgule. Une petite virgule. Et de leur infliger une raclée. Une bonne grosse raclée. Virgule, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, comme nous tous ici. Avec leur corps légionnaire.
Légionnaire ou légionnaire ?
Leur corps légionnaire. Est-ce que c'est bon ?
On va dire oui.
Ok, tout le monde a fini ?
Ouais.
Bon, parfait. Bah écoutez, maintenant on va se retrouver un petit peu plus tard pour la correction.
Est-ce qu'on peut juste savoir de quoi parle le texte ?
Écoute, je l'ai lu en entier plusieurs fois, je suis perdu à chaque fois, je ne comprends pas du tout qu'est-ce qu'il veut dire exactement.
On verra la correction, je crois avoir le sens général.
Après, j'ai tout à dicter avec moi, c'est vraiment juste trois petits paragraphes, je peux vous le lire, ou peut-être vous allez comprendre dans la totalité.
Peut-être à la fin ?
Ok, on fait ça à la fin. Et donc bah, maintenant, on va partir sur une petite pause avec la belle musique de Queen Latifah, UNYTI, donc Unity. Et c'est maintenant.
Brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low. You know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block. I had my cutoff shorts on right cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Who you calling a bitch?
You and I,
and take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I fell so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew is you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat down by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. Yeah. This is my notice of the tool, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore, that's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't
sitting
here.
Who you calling a bitch?
You and I. Now that you saw Apache's video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeped you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you wasn't heard, and nobody ever heard of you. Now you a wannabe.
Hard.
You barely know your ABC.
Please.
There's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet?
Young lady.
And real bad girls are the silent type.
Yeah.
Ain't none of this worth getting your face sliced. Cause that's what happened to your homegirl, right? She got to wear that for life. Who you calling a bitch?
Vous êtes toujours avec Langue de Prune sur Radio Prune. Et je vais maintenant laisser la parole à notre chère Asilis pour la chronique d'ici d'ailleurs, où elle va pouvoir nous éclairer un peu plus sur la kermesse ou la fête de l'école.
D'ici et d'ailleurs.
C'est le mois de juin et le retour des fêtes de fin d'année dans les écoles primaires. Elles reviennent après une sombre période où le Covid avait empêché les enfants de crever de chaud dans leurs costumes, les maîtresses de se dandiner sur scène pour montrer la Corée, et les boîtes de conserve de se faire dégommer au chamboultou. on va parler un petit peu des mots kermesse et fête de l'école. Alors, est-ce que le terme fête de l'école est simplement une version moderne de la kermesse ? Il semble que ce soit plus compliqué. Il y a une farouche opposition au terme kermesse de la part de certains profs. Ces anti-kermesses, je les ai rencontrés. Et ce qu'ils m'ont confié va vous stupéfier. J'ai rencontré la directrice d'une école élémentaire, dont je ne peux malheureusement pas vous révéler l'identité. Elle m'a expliqué que le mot kermesse est un terme religieux, venant du breton ker et de messe, littéralement le lieu de la messe. Malheureusement, cette directrice s'est trompée sur l'étymologie. Pour autant, le mot kermesse est bien religieux. Il vient du néerlandais kermis, venant lui-même de kerk, église, et misse, messe, la fête de la paroisse, ou la fête en l'honneur du saint patron. C'est donc bel et bien une fête chrétienne. Le terme s'est ensuite étendu aux fêtes de bienfaisance et aux foires annuelles. Le point commun entre tous les sens de ce mot, c'est une fête communale. Lorsque j'ai découvert cela, je me suis lancée sur une nouvelle piste. J'ai interrogé de nombreux citoyens. La plupart de ceux qui utilisent le terme viennent de la campagne, d'une petite ville ou d'un village. En effet, quand il n'y a qu'une école dans le village, il est plus facile d'impliquer tous les habitants. Les commerçants donnent des lots, les assos tiennent des stands, les personnes âgées font des costumes. Dans les grandes villes, il y a trop d'écoles pour que ce soit possible, même si bien sûr c'est le cas dans certains quartiers. Le terme de fête de l'école semble donc plus adapté, car c'est une fête plus fermée, qui accueille seulement les parents, les élèves et les personnels. Alors le terme kermesse est-il voué à disparaître ? S'il est rejeté pour des motifs laïcs, il est toujours bien présent, car il apporte une nuance avec celui de fête de l'école. En tout cas, ce n'est pas des questions de vocabulaire qui nous empêcheront de jouer à la pêche à la ligne.
Merci beaucoup pour cette enquête, Azilis. C'était quelque chose de très, très intéressant et on va se coucher moins bête. Et maintenant, c'est au tour de Axel qui va nous parler conjugaison.
Et oui, si la conjugaison, ça ne fait pas partie strictement de l'orthographe, c'est tout de même un des plus gros écueils de la langue française, surtout à l'écrit. Un des avantages d'ailleurs du fait qu'on parle à la radio, c'est que personne ne peut me juger sur les S, les T, à la fin des verbes à la troisième personne. Un endroit où souvent je ne suis pas très sûre de moi, à part bien sûr les quelques fois où Azilis lit mes textes quand on les imprime. Une des difficultés majeures face à l'orthographe dans la langue française, en fait, c'est la quantité d'exceptions, de verbes irréguliers, la quantité de temps aussi qui existe. Par exemple, petite question piège, attention, est-ce que vous pourriez me citer tous les temps qui existent à l'indicatif ?
Je passe mon tour.
Le présent.
Tout oublié.
Oui.
Beaucoup.
Le futur.
Oui, le futur. Quel futur ? Il y a plusieurs futurs, Azilis.
Le futur simple et le futur antérieur.
Oui, bravo.
Le futur apocalyptique, celui qui approche. Non, pardon, excusez-moi, c'est sur un autre domaine.
Non, mais par contre, t'as utilisé le bon mot.
Futur apocalyptique.
Non, après, t'as dit futur proche, alors du coup, je te mets le corps.
Ah, yes, c'est un temps futur proche.
C'est ça. Vous avez cité aucun temps du passé. Ouais,
hein. Passé simple et passé antérieur.
Il y a peut-être le passé composé, j'en sais rien.
On nous apprend à ne pas parler du passé, il faut l'oublier. On disait futur.
Passé antérieur.
L'imparfait.
L'imparfait.
Le plus que parfait.
Exactement.
Il nous en manque combien ?
Il vous en manque un seul. Pas mal.
Le présent composé.
C'était du présent, du passé, du futur ?
C'est du passé.
Du passé.
Proche du présent.
Il y a le mot passé dedans ?
Oui.
Et on a déjà dit passé simple. Passé donc, composé. Passé proche.
C'est le passé récent.
Ça existe ?
Ça existe.
Attends, quoi ?
Vient de...
C'est ce qu'on doit appeler le passé tout court, non ?
Oui, en fait, je pense que dans la plupart des cas, on le différencie pas du passé simple.
Ah.
Mais ça illustre bien la complexité de la chose. Pour m'attarder sur un des problèmes, qu'on va dire une des erreurs d'orthographe qui revient le plus souvent, enfin de conjugaison qui revient le plus souvent, c'est l'accord du participe passé. Ça, c'est généralement celui qu'on voit le plus. Surtout celui avec le verbe « avoir ». Vous vous êtes sûrement déjà personnellement fait reprendre dessus, à moins que vous êtes dans la team de l'équipe, de ceux qui reprennent. Parce qu'il y en a qui sont très à cheval là-dessus.
Non, non, non.
Et ça, c'est un peu soit on le voit, on le repère, ou ça nous passe complètement au-dessus. En fait, en soi, cette règle-là paraît simple. Si le COD est avant l'auxiliaire, il faut accorder, du coup. Mais, vous le savez sûrement, dans la réalité, c'est pas si simple. Et avant de parler de ça un peu plus en détail, on va faire un peu d'histoire. Parce qu'en fait, cette règle-là, ça a une histoire. C'est pas juste, en fait, une règle qui existait en latin, qui s'est un peu après transformée dans le français, qui en a découlé de manière, on va dire, naturelle. Et non, c'est un poète, Clément Marot, qui a créé cette règle à la demande de François Ier. Donc ça, c'était au XVIe siècle. En fait, l'idée, c'était de reprendre une règle qui était présente en italien. Parce que l'italien, c'était à la mode, ça faisait stylé, donc on voulait, genre, voilà, prendre, prendre une de leurs règles. Alors après, ça a été une adaptation un peu libérale, parce qu'on peut pas, forcément, on ne peut pas adapter exactement à l'identique quelque chose qui se passe en italien ou en français. Notamment le fait que ça se met en place pour singulier pluriel et pour féminin masculin. Sur l'italien, il n'y a qu'une moitié de ça. Donc du coup, même s'il a créé cette règle-là, en fait, ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est que ce n'est pas une adoption immédiate et d'un coup, tous les auteurs français ont commencé à utiliser ça dans leurs textes. Loin de là, c'est resté en fait assez marginal pendant très longtemps. Parce que je vous ai donc dit, ça a été créé au XVIe siècle. Au XVIIIe siècle, ce n'était toujours pas utilisé par tout le monde. Il y a l'abbé d'Olivet, qui est un grammairien français, qui reprend cette règle-là, la remet en avant. Je précise qu'il faisait partie de l'Académie française, ce monsieur-là. Et en fait, c'est pendant la Troisième République, avec l'école républicaine, que cette règle-là est vraiment imposée, devient un peu incontournable, gravée dans la roche. Et donc en fait, c'est vraiment une création, une existence, on va dire, obligatoire, qui est assez récente. Il y a déjà eu plusieurs tentatives de retour en arrière là-dessus. Depuis, par exemple, il y en a eu une assez importante en 1900. En fait, le problème, c'est que la plupart des personnes connaissent l'existence de cette règle, mais ne savent pas exactement où et quand l'appliquer. Il y a beaucoup de cas, en fait, de sur-application, où les gens savent que ça existe et qu'il faut faire un accord, mais ils ne sont pas sûrs exactement quand, et donc, du coup, vont accorder quand il ne faut pas. En fait, le problème, c'est que l'accord du participe passé avec être, c'est beaucoup plus simple, parce que ça se fait avec le sujet. Et donc, du coup, le sujet, on le retrouve facilement dans la phrase. Et généralement, assez instinctivement, on sait qui est le sujet dans la phrase et on va faire cet accord-là. En fait, une fois qu'on est sorti du collège, on ne décortique plus les phrases, on ne recherche plus le COD, le COI dans les phrases, etc. Et donc, du coup, le sujet, autant ça reste instinctif, autant cette partie-là, le COD... Souvent, quand ça fait un moment qu'on n'est plus à l'école, etc., qu'on n'a plus la tête dedans, si on demande « trouve-moi le COD dans la phrase », c'est plus compliqué. Et en fait, le problème principal aussi de cet accord, c'est que c'est inaudible. Tous les verbes du premier groupe, on peut y ajouter par exemple un S, un E, et à moins qu'il y ait un mot derrière qui demande une liaison, on n'entend rien. Et du coup, on l'utilise jamais, on l'entend quasiment pas à l'oral, et c'est qu'à l'écrit qu'on se retrouve face à ce problème-là, et à ce moment-là, du coup, qu'on doit y penser. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel de ce fait-là. Et de ce fait-là, il y a très peu en fait, de participes passés où les accords sont audibles. On en compte 47 sur 2300 participes passés. Et sur ces 47, il y en a 16 qui sont utilisables avec avoir. En fait, c'est principalement certains verbes qui vont être très utilisés. Écrire, faire, inscrire, mettre, ouvrir, prendre. Ceux-là, c'est ceux qu'on va entendre très régulièrement. C'est vraiment des verbes communs, mais le reste, c'est même pas des choses autant utilisées que ça. Donc c'est vraiment une règle qui va impacter des choses très précises. Et d'ailleurs, cet oubli d'accord, si je vous disais que dès 1900, on a essayé de dégager cet accord-là, c'est que déjà, en fait, y avait des oublis. Ça concerne tous les âges, toutes les classes sociales. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui, à l'école, parce qu'il n'y a plus assez de dictées, les gens font des erreurs, ça a été relevé. Même à l'âge de nos grands-parents. Les gens ne savaient pas mieux l'affaire à l'époque. C'est pour ça que c'est en fait une règle, on va dire, qui est très contestée. Voilà.
Retrouvez Langue de Prune en podcast sur prune.net.
Bien, merci beaucoup Axel, ça me déculpabilise un petit peu de faire toutes ces fautes à chaque fois. Enfin, bon, après tout ça, je vous propose une petite chanson de Gainsbourg en relisant ta lettre.
Thank you. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte, ça c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prends qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur, là y en a une. J'en mourirai, n'est pas français, ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute, là y en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prends pas deux, mais n'en prends qu'un, caché au moins, n'en prends pas deux. Ça te calmera, et tu verras, tout retombe à l'eau. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
Vous êtes toujours sur Prune à écouter Langue de Prune. Et en maintenant, on va continuer encore avec Axel pour l'étymologie en folie.
L'étymologie en folie.
Alors aujourd'hui, dans l'étymologie en folie, comme c'est une émission, notre émission c'est la dernière avant les vacances d'été, je vais vous parler de noms de villes du coin. Comme ça, si vous rencontrez des gens en vacances, vous aurez des informations à glisser en plus dans la conversation. Ah mais tu viens d'où toi ? Ça vous permet de vous démarquer un peu, de, voilà, de faire bien, vous savez, des choses. Déjà, parlons de la plus grosse ville, Nantes. Certains des auditeurs ça, le savent sûrement. Nantes, ça vient du latin « portus namnetum », qu'on peut traduire comme le port des Namnettes. Je vois autour de la table que les gens n'ont pas l'air de savoir. Peut-être que Louis fait mine de savoir, mais la partie port, bon, ça ne vous surprend pas. Nantes a toujours été historiquement une ville portuaire. Et les Namnettes, en fait, c'était le peuple gaulois qui vivait dans la région, donc à l'époque des Gaulois, des Romains, voilà.
Des vrais Français.
Voilà. Donc, rien d'extrêmement incroyable. Une ville dont je pensais que le nom aurait une origine un peu marrante, c'était Carquefou. Parce que j'ai toujours trouvé le nom bizarre. Mais en fait, en réalité, Carquefou, l'étymologie, en fait, c'est assez obscur, on ne sait pas exactement. La trace la plus ancienne du nom de la ville, c'est 1123, avec Carcafagus, et en 1272, on trouve la forme Carquefou, donc qui se rapproche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je ne savais pas du tout que ça existait depuis aussi longtemps que ça. En fait, le mot latin fagus, ça désigne un être, l'arbre, hein, je précise, de même que le français médiéval après fou. Et le préfixe, ça correspond à rien vraiment de connu, cette partie carca qui est devenue kerque. Alors, il y a des linguistes qui ont suggéré la racine germanique Kirk, qui parle d'une église, donc ce serait l'église du être, mais rien de sûr. Une autre ville avec une étymologie moins mystérieuse, c'est Orvault. Donc, la forme latine la plus ancienne du nom d'Orvault, c'est Orsvaldum, qui date de 1028. Encore une fois, je ne savais pas du tout que c'était aussi vieux que ça. Et donc la forme qu'on connaît aujourd'hui, Orvault, elle apparaît en 1287. Le sens, là c'est assez simple à deviner, c'est ORS d'or doré et une forme plurielle de val, vallée. Le val d'or, le val doré. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le bourg d'Orvault, il y a un grand val, etc. Ça représente tout à fait le nom de la ville. D'ailleurs, en fait, en cherchant ça, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs communes en France qui portent le même nom. Il y a Orvault, V-A-U-X, dans l'Eure. Il y a Orvault, V-E-A-U, dans l'Essonne, et il y a Aurival, en Charente. Et en fait, Aurival, c'est exactement les mêmes racines latines, mais appliquées de façon différente. On remarque donc que notre Orvault à nous, c'est celui avec l'orthographe la plus compliquée. Alors, j'aurais pu vous parler, évidemment, de tous les autres noms de villes, des alentours de Nantes, mais la liste est très longue. Peut-être que si vous écoutez notre émission l'année prochaine, eh ben, le tour de votre ville viendra.
Eh bien, merci beaucoup pour toute cette connaissance sur les noms de villes. Et maintenant, eh bien, il est l'heure de passer à la correction de la dictée. Ça va ? Pas trop stressé ? Est-ce que vous êtes prêts ?
Un peu. Est-ce que tu vas mettre des points en négatif en dessous de...
Bah, on me l'a fait, donc je vais le faire aussi. Hein, okay, je ne veux pas être le seul à avoir des moins 5, des moins 10. Voilà. Ah. Alors, c'est parti. Peut-être que je relis rapidement un peu le texte pour voir si vous vous sentez prêt ou pas.
Pourquoi pas ?
Allez. Quelques soies et quelques exigus qui aient pu paraître à côté de la somme due, les arcs étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ses fusillés jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements avec leur corps légionnaire. Ok, c'est bon, on l'a tous en tête ? Alors bon, j'imagine pour le quelques soies, vous avez bien écrit, au pluriel ? Quel,
ouais,
avec un S,
mais c'est du masculin.
Soit, eh bien oui, mais bon, ça se verra pas. Quel que soit. Non,
bah, j'ai pas bien écrit alors.
Ah ben bah, non, c'est E2LES.
Bah oui. Oh, j'ai changé au dernier moment.
Ça, c'est un peu un piège aussi, parce qu'en fait, sans savoir le reste de la phrase, tu peux pas deviner.
Oui,
j'ai changé, j'ai cru que c'était pour les arcs. Et en fait, non,
c'est pas les arcs.
Non, c'est les arts.
C'est les arts. Ah, mais j'ai cru que t'avais fait. Que tu m'as regardé, t'as fait arc. J'ai changé aussi. T'écoutes.
Ok, oui. En féminin, que soit, virgule et quelques exigus.
Il y avait un S ou pas quelques.
Quelques exigus.
Ah, j'ai cru que t'avais dit quelques exigus.
T'as fait la liaison à un moment.
Il y a des versions.
Quelques exigus.
Ah là là.
Il y a des versions où t'as des. J'ai regardé partout, t'as des versions où déjà t'en as un où t'as un apostrophe, ça fait quelques exigus ensemble. T'en as une où t'as des fois un S. Donc j'avoue que naturellement, peut-être le S est venu.
Il est venu.
Donc le
il est
S,
venu.
Ça peut être gardé. Parce que quand j'ai regardé, il y a des versions qui l'avaient. Donc quelques exigus. Est-ce que vous avez bien écrit exigus ?
Oui, parce que ça, je ne l'ai pas changé au dernier moment.
Ok, c'est bon. C'est bien avec le petit S à la fin. Donc qui a pu paraître à côté de la somme due.
Est-ce qu'il y a un accent circonflexe ou pas ? J'en ai pas mis, mais...
À sur... du ?
Ouais.
Non, okay, il n'y en avait pas.
C'est bon.
Du U, D-U-E. On est d'accord ?
Oui, oui, oui.
Et maintenant, les arts.
A-2-R-E-S.
Ouh, t'y es presque.
Ah, c'est A2RHES.
Exactement.
Oh, j'avais pas du tout compris ça.
Les arts.
Ah. Bon, moins un, Axel.
Voilà, allez, on corrige, on continue. Qui était censé avoir donné la douairière. Alors, comment vous écrivez ça, la douairière ?
J'ai mal écrit son C, je pense.
D-O-U-A-I.
Ouais.
R-I. E, accent grave. R-E.
Ding, 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 ding. Motus, bravo, tu as tout trouvé. Et le marguillier.
Alors ça, je ne sais même pas ce que c'est, donc...
Le marguillier va arrière, à tous les coups.
T'aurais pu regarder.
Techniquement, ça fait
il était tard,
sens,
ok.
Moi, j'ai mis M-A-R.
Ouais.
G-U-I. L-L.
Oui.
I, parce que je me suis dit, ça fait bien E-R.
Mais c'est... Ouais, mais en fait, t'as dû voir dans le reflet derrière moi et t'as copié.
Non, c'est comme ça que je l'aurais écrit aussi instinctivement. Ouais.
Bah c'est ça, bravo, ok, donc là c'est parfait. Donc il était infâme, bon ça en est bon j'imagine, d'en vouloir pour cela à ses fusillés jumeaux.
Est-ce que c'est avec un C ou un S ?
C, oui avec un C. La C, parce que tu les montres, et du coup ça fait un C.
Mais je savais pas si c'était les fusillés de quelqu'un, ça n'a pas trop de sens, mais on sait pas.
À ses fusillés jumeaux et mal bâtis, j'imagine, voilà, vous avez aussi bâti, comment vous l'avez écrit ?
B, accent grave. Sans circonflexe, pardon.
Ok.
Ça ne se voit pas à la radio.
C'est le petit chapeau, très radiophonique. Elle fait actuellement le petit chapeau avec ses mains. Et de leur infliger une raclée alors qu'ils ne songeaient. Comment est-ce que vous avez écrit ne songeaient ?
J'ai mis au pluriel. C'est pas les fusillés ?
Si, bah si, c'est eux alors qu'ils ne songeaient, parce que c'est eux qui sont pris dans...
Okay. A-I-E-N-T. A-I-E-N-T.
Ouais, c'est ça. Et qu'à prendre des rafraîchissements. Bon, j'espère que vous l'avez bien écrit, rafraîchissement.
Ouais. Oui, on y pense beaucoup en ce moment.
Ouais, c'est ça.
On est en train d'enregistrer en plein milieu de la canicule. Là.
Il fait chaud. Et alors, le dernier mot, corps légionnaire.
L-I.
Corniglia, t'as juste fait L.I. Mais alors là, bah, bravo non, sur tes dix.
Je dis le début et je dis, est-ce que déjà, là, faut m'arrêter, tu vois.
Bah, moi, j'ai écrit comme légionnaire, mais avec un I à la place du E,
ouais,
c'est tout.
Hein. Moi aussi. Ouais.
Mais il vous manque une partie, là, au début du mot.
Oui, non, mais le corps, bah, j'en sais rien. Si c'est un seul mot, moi, je sais pas.
Ah, moi, je
ou alors c'est co-religionnaire. Mais...
Ah, voilà, c'est en un seul mot. Ça fait C-O-R-E.
Mais t'as dit corps légionnaire, t'as pas dit co-religionnaire.
Mais c'est corps légionnaire.
Tu dis pas toujours les E au milieu d'un mot.
Bah c'est pas c'est un seul mot son truc, c'est il vient de le dire, c'est un seul mot.
Ouais.
Bah co-religionnaire, si, ça se dit.
Mais tu peux dire aussi corps légionnaire.
Je suis vraiment pas certain.
C'est peut-être une histoire d'accent.
Ah, c'est comme on est religionnaire ensemble.
Oui, c'est ça. C'est partager la même religion, co-religionnaire.
Ah oui, j'avoue que je pense que...
Ah, d'accord. Moi, je pensais que c'était corps, C-O-R.
Non, mais j'ai fait pareil, hein. J'ai marqué corps, C-O-R-P-S.
Espace légionnaire avec un I.
Ouais, bah, c'est ça, j'ai fait pareil que toi. Et vu qu'il n'est pas dit co-religionnaire...
Voilà, on s'en prend toujours au prof.
Écoutez, bah, écoutez...
Oh, bah, de toute façon, moi, tu fais une dictée pareil, je porte plainte. Hein. D'une manière ou d'une autre, je porte plainte.
Excuse-moi d'avoir peut-être un accent. co-religionnaire, bah, je mange des trucs. Alors, ok, peut-être je mange des E. Mais alors après, vous n'avez qu'à connaître.
De toute façon, le seul accent qui est reconnu, c'est l'accent parisien, j'en fous.
excusez-moi, je vais avoir l'accent.
C'est toi qui dis ça, en plus, lui.
Moi, un accent. Je vois pas ce que vous voulez dire.
Peux-tu nous dire.
Attends, il a un accent, lui.
Compte jusqu'à 10, s'il te plaît.
Jusqu'à 10, bon, ouais. C'est pas
avant 9, c'est quoi?
Ah oui, non, oui, le 8.
Ah, il se force.
Et sinon, le double de 10, c'est quoi?
20.
Ah, ah, bah, ça serait bon.
Et ils ont très bonne raison pour ça, hein. Le vin, ça se boit.
Je me souvenais pas qu'il y avait un E après.
Ok, vous n'auriez pas remarqué.
Je sais pas, tu dis 23 ou 23?
23.
Ah, voilà.
Ah, oui, c'est bah, le T, vrai.
Normalement, on ne doit pas faire, on doit pas faire la jonction, hein. On doit dire 23. Hein, donc...
Je sais pas moi, le 23, le T devient déjà le T de 3, en fait, c'est 23.
Bah oui, mais les...
Ah, je fais ça,
les accords, tu les fais avec, avec des voyelles.
Mais je fais pas un accord.
Bah, alors, une liaison. Quoi.
Oui, les liaisons, pardon.
Oui, mais je l'ai.
Non, je... pardon, madame, la police de la langue.
Avec les voyelles, pas avec les consonnes.
Bah non, disons que 20, je fais juste un 20, et je sais que le T, c'est déjà le T de 3, je dis pas le 23.
Bah c'est ça.
C'est 20.
Non,
je fais pas le 20.
Mais par exemple, si tu dis 22, tu dis 22. Ouais.
20.
Bah oui, bah c'est exactement la même chose que je suis en train de dire. Tu dis 22, tu dis pas 22.
Ouais, non, c'est vrai.
Oui,
ouais.
C'est juste fait, ouais,
alors que tranche. Vous faites la liaison pourtant. Et ben voilà, donc moi je suis d'accord, faut dire 23, mais du coup c'est 23.
Moi j'avais plus le N, 23. Mais en même temps, dit, est-ce que ça vous dit d'échanger quelques mots tu en parlais tout à l'heure, Aziliz, quand il y avait la musique et tout ça, rapport à l'utilité de l'orthographe et son enseignement et ouais, tout ça.
Je pense qu'il faudra faire un hacker la faute. Aziliz ou Aziliz.
Ah putain. Depuis le temps qu'elle connaît, elle m'a jamais repris. C'est trop tard.
Si, j'arrête pas de te reprendre, mais je t'ai repris trop tard, donc c'est fini. Quoi, c'est
quand vrai. Est-ce que tu m'as repris?
Bah, on avait 20 ans, quoi.
Bah voilà.
Moi, je voudrais souligner quand même hein, qu'à un moment, pendant une des chansons, on parlait d'orthographe et Louis s'est vanté de savoir écrire ornithorynque.
Et du non, coup... c'est pas vanté, j'ai dit qu'ado, je savais le faire.
Oui, qu'ado, il savait le faire. Du coup,
c'était il y a longtemps.
J'ai appelé ornithorynque et ça me disait non, c'est pas comme ça que ça s'écrit. Et on a vérifié et non, j'avais la bonne orthographe. Voilà.
Ouais, mais on n'a pas dit quelle était la faute, du coup. En fait, on savait pas où était le Y. On pensait voilà. Qu'il était au début.
Donc on voit bien que l'orthographe, c'est quand même un moyen de casser les gens.
Et même, à quoi il sert le Y, en vrai?
Bah si c'est ça, ouais, c'est juste pour me casser. Non mais Axel, t'es de droite. Franchement, je trouve ça insupportable.
Enfin, bon. Mais en tout cas, là, bon, bah alors, l'heure approche. On va devoir se dire au revoir définitivement. Du moins, pendant les vacances. On va se retrouver à la rentrée, tous heureux, en pleine forme, bronzés. Ouais, beaucoup de coups de soleil, personnellement. Je pense que toi aussi, Aziliz.
Oui.
Et bah on espère que vous serez avec nous lors de ce rendez-vous, lors de la rentrée de septembre.
D'octobre.
D'octobre. Oh pardon, c'est encore plus loin. Excusez-moi, je pensais que c'était septembre.
J'ai trop hâte.
Ouais, j'ai trop hâte. Moi, je veux que ça soit tout de suite, en fait. On enchaîne déjà avec l'émission de juillet. On va créer une émission de juillet. Et donc, bah, on va tous se dire au revoir. Au revoir tout le monde. Bonnes vacances.
Au revoir.
Au revoir. Bonnes vacances, même si vous n'en avez pas.
Oui, c'est vrai. Bonnes vacances quand même. Bonne chance.
Bon été. J'espère qu'on ne va pas tous mourir de chaud.
C'est très heureux comme dernier mot.
Ouais.
À plus dans le bus,
à plus tard dans
à
le
bientôt
car,
dans le métro,
à mardi dans le
à
taxi,
plus tard,
très
dans
vite
le car,
dans le cockpit.